Le duel entre Miloš Zeman et Jiří Drahoš, les journaux étrangers notamment, le présentent comme celui d'une orientation pro-russe contre une orientation pro-européenne de la République tchèque. Ancien correspondant du Monde à Prague et observateur aguerri de la scène politique tchèque, Fabrice Martin Plichtan nous éclaire sur les enjeux de ce scrutin au micro d'Anna Kobishta.
Mais le président Zeman, après un premier mandat de 5 ans, postulait un second, espérait finalement dépasser les 40% de voix, ce que lui laissait espérer un certain nombre de sondages pendant tous ces derniers mois. Mais finalement, il y a eu une forte mobilisation tout de même des opposants qui se sont répartis entre 8 autres candidats. Et aujourd'hui, la réélection de M. Zeman, qui semblait encore acquise il y a peu, n'est plus aussi certaine.
Comment est-ce que vous expliqueriez un peu le succès de Jiří Drahoš? C'est quelqu'un qui est issu de la société civile, c'est un scientifique, hein, c'est l'ancien directeur de l'Académie des sciences. Il était quand même peu connu du grand public avant de se présenter contre Miloš Zeman.
Alors Jiří Drahoš est un scientifique. Les Tchèques, en règle générale, aiment les scientifiques. En plus, c'est une personne qui s'est présentée il y a déjà un an et qui a, fur et à mesure, sillonné le pays, s'est fait connaître peu à peu. Il demeure encore inconnu pour presque 20% des lecteurs, selon un sondage récent. Néanmoins, ce ne l'a pas empêché de faire un très bon score, score que, grosso modo, lui prédisait les sondages après l'arrivée d'un certain nombre d'autres candidats qui ont fait aussi de bons résultats, alors que pour beaucoup, il faut l'avouer, était quand même peu connu des électeurs et des Tchèques en général. Le fait que Drahoš ait finalement si bien réussi et le fait aussi que finalement il ne dérange personne ou il fâche personne, c'est une personne assez souple et élastique qui peut épouser ou représenter ou dans lequel beaucoup de Tchèques peuvent se représenter. C'est un homme intelligent, sage, calme, reposé, qui offre une rupture avec la présidence clivante de Zeman.
Ce qui est intéressant aussi, vous le rappeliez, hein, c'est le succès de plus petits, entre guillemets, candidats. Hein. Bah, on peut parler de Pavel Fischer, qui lui aussi, finalement, n'était pas connu du grand public, hein, ou de Marek Hilscher, qui est un médecin, qui est aussi issu de la société civile, et qui ont fait quand même des scores tout à fait honorables, hein, par rapport même, par exemple, à un ancien Premier ministre comme Mirek Topolánek.
Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est demande de personnalité de la société civile qui s'est exprimée par ce vote, puisque quasiment tous les candidats étaient issus de la société civile, sauf Zeman et Topolánek, ancien Premier ministre, qui fait qu'un pitoyable 4%, mais à l'image de sa réputation dans la société qui est fort mauvaise. Mais c'est vrai que ces candidats comme Pavel Fischer, ancien conseiller de président Havel, plus Ilsner, plus d'autres candidats comme Horáček, un parolier de musicien, peut-être qui était le plus connu des autres, ou des candidats en règle générale, hors Zeman, finalement ne finit que quatrième. Par contre, pour Pavel Fischer et ce jeune médecin, Eichner, c'est l'occasion peut-être d'envisager pour eux, en effet, de continuer en politique, et peut-être de trouver un chemin et de se préparer pour dans 5 ans.
Plus de 61% de participation quand même. Hein. On sent que les Tchèques ont été quand même intéressés par cette élection. Alors qu'après tout, on pourrait dire que le président ayant peu de prérogatives, l'enjeu n'est pas celui d'un pays avec un régime présidentiel.
Oui, il a peu de prérogatives, mais il jouit d'une aura particulière dans ce pays, entre autres parce qu'il y a une tradition de forts présidents, qu'on avait commencé par le tout premier, Thomas Garrigue-Masaryk, mais Havel ensuite. Mais même déjà sous le communisme, le président n'avait pas beaucoup plus de prérogatives et avait une autorité. Donc les gens ici considèrent que le président a un rôle de représentation et qu'il doit un peu guider ou donner le cap à la société, même s'il n'a pas les instruments constitutionnels pour le réaliser. Et donc les gens s'intéressent même à qui doit être au château.
Pour terminer, à votre avis, à quoi peut-on s'attendre un petit peu dans les deux semaines à venir? Il va y avoir des débats télévisés. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que justement ce Zeman, qui est certes un peu diminué, on va dire physiquement, puisqu'il est quand même, on sent que voilà, qu'il est malade aussi un peu, mais il a toujours, on l'a entendu lors de la conférence de presse, on l'a entendu, il a toujours sa verve, hein, c'est quand même le vieux baroudeur de la politique. Est-ce que Drahoš peut faire face justement à cette... À ce Zeman, vieux baroudeur de la politique.
Sur les débats auxquels Zeman a refusé de participer avant le premier tour, il était à peu près certain qu'il ne refuserait pas avant le second tour, parce qu'on sait que là, il a une carte à jouer. En effet, c'est un excellent débatteur. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de M. Drahoš, qui, dans les précédents débats, s'est montré quand même très fade. Donc il va falloir qu'il travaille énormément cet aspect, qu'il se prépare très bien, car en face, non seulement Zeman va essentiellement concentrer ses efforts sur les probablement deux débats qui seront organisés, parce qu'il physiquement n'a pas la force et les moyens de sillonner le pays, d'aller à la rencontre des citoyens, donc il va tout miser sur ces débats. Il va sûrement chercher à sinon démolir, au moins ridiculiser son adversaire.